Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. Le nouveau roi Charles III devant la Chambre des communes britannique pour rendre un dernier hommage à Elisabeth II et s'inscrire dans la continuité constitutionnelle. Un pays en deuil, avec une vie politique entre parenthèses. En fin de semaine dernière, la première ministre Liz Truss a annoncé un plan de sauvetage pour l'économie de plus de 150 milliards de livres, 170 milliards d'euros. La hausse des prix de l'énergie, qui devait grimper de 80% en octobre, sera finalement limitée, mais de nombreux citoyens britanniques se sont déjà organisés pour faire pression sur le gouvernement et les opérateurs énergétiques et ne pas payer leurs factures. C'est le mouvement Don't Pay UK et c'est le reportage de Marie Billon.
Geler les profits, pas les gens. Les citoyens n'ont pas fini de scander ce slogan malgré le blocage des prix annoncé par le gouvernement. La facture reste encore beaucoup trop salée, 2500 par an environ.
Choisir entre mourir de faim ou de froid, je ne vais pas mourir de froid ni de faim. Je ne vais pas payer mes factures. C'est ce qu'on doit tous faire. On doit taper là où ça fait mal.
Don't Pay UK appelle à une grève du paiement, à annuler le prélèvement automatique le 1er octobre si 1 million de personnes s'y engagent déjà. Ce que le mouvement demande, ce sont des factures d'énergie abordables au niveau d'avant la première augmentation de 54% en avril 2022. Alex, 26 ans, fait partie des signataires.
Je ne vais pas pouvoir payer toutes mes factures cet hiver. Mon loyer vient d'augmenter. Le coût de la vie est à la hausse partout. Je n'ai plus les moyens de payer pour l'énergie. Je vais donc annuler le prélèvement automatique et certainement pas payer pour ces montants qui ont doublé.
Pour certains comme Ed, c'est plutôt une question de principe. Il aurait les moyens de payer, mais en a décidé autrement.
Pour moi, c'est une question de moralité. Ce sont des fat cats, des nantis qui se remplissent les poches au détriment des gens normaux qui travaillent et qui essaient juste de s'en sortir. C'est complètement inacceptable et ce n'est pas inévitable.
Nous avons un problème dans ce pays et il existe depuis longtemps. Keep calm and carry on. On reste calme et on avance malgré tout. Mais on ne peut plus rester calme. Il faut que vous vous énerviez. Osez vous battre, osez gagner et ne payez pas vos saletés de factures.
Don't Pay UK a commencé comme un mouvement apolitique. C'est autant un choix qu'une conséquence de l'anonymat strictement protégé des fondateurs. C'est un groupe d'amis, on ne sait pas combien ni quels âges, qui, discutant dans un pub de Londres un jour, a décidé de lancer cette action. Le mouvement s'est organisé sur le net avant de prendre corps au niveau local. Les mobilisations ont ensuite abouti à cette grande manifestation nationale du 26 août à Canary Wharf, quartier financier de Londres, devant le QG du régulateur Ofgem. Mais dans les rues, le mouvement s'est naturellement politisé.
We need to get rid of the Tories.
Politicians aren't doing anything to help.
Les politiques ne font rien, ils n'ont aucune vision. Là, on voit les gens qui travaillent ensemble pour faire pression comme ils le peuvent sur les compagnies. C'est comme une action de masse. Et cette stratégie a une grande histoire au Royaume-Uni et bien au-delà.
Le jeune homme, Marc, fait référence à la campagne « Can't pay, won't pay, je ne peux pas payer, je ne vais pas payer » de 1990. C'était alors une grève du paiement en réponse à la poll tax, l'impôt local ultra impopulaire introduit par Margaret Thatcher, alors première ministre. Couplée à des mouvements de masse et à des émeutes, la grève du paiement a été suivie par des millions de Britanniques. Elle a contribué à faire chuter la dame de fer et à faire annuler la poll tax. La stratégie de Don't Pay UK est la même, submerger les compagnies privées avec un nombre record de non-paiements pour qu'elle ne puisse pas prendre de mesures contre chacun des grévistes.
La sécurité est dans le nombre. Les compagnies vont être submergées. Elles doivent passer par un processus très long. Elles ne pourront pas agir contre tant de gens en même temps. Donc si assez de gens le font, annuler son prélèvement automatique, c'est un levier très efficace.
Coupure de gaz et d'électricité, installation d'un système de prépaiement obligatoire sont certains des risques auxquels s'exposent les signataires, en plus de la spirale de l'endettement.
Et la crise énergétique qui menace l'Europe impacte plus particulièrement l'Allemagne, un des pays les plus dépendants du gaz russe. Retour du charbon, importation de gaz naturel liquéfié et même nucléaire, l'Allemagne se démène dans l'urgence pour éviter la pénurie énergétique à l'approche de l'hiver. Depuis Berlin, Julien Méchaussi.
Sortie du nucléaire, sortie du charbon, mix énergétique dominé par les énergies renouvelables. La guerre en Ukraine est venue balayer une grande partie des engagements pris par l'Allemagne. Symbole de ce revirement contraint, Robert Habeck, ministre écologiste de l'économie et du climat, qui a dû annoncer en l'espace de quelques mois la relance du charbon et tout récemment la mise en réserve de 2 centrales nucléaires jusqu'en 2023 au moins. Une dernière décision au faux air de prolongation du nucléaire. Des revirements soutenus par l'opinion publique allemande et plus surprenants par les organisations de défense de l'environnement. Sur la réouverture de centrales à charbon, l'ONG Greenpeace juge ainsi cette décision amère mais inévitable. Une stratégie qui cherche par tous les moyens à économiser du gaz, indispensable à l'industrie mais aussi aux foyers allemands dont la moitié se chauffe au gaz. 2 sites ont ainsi déjà été reconnectés au réseau d'électricité. Ces mesures, associées à des réserves en gaz qui devraient permettre de passer l'hiver, sont cependant appelées à se heurter à de nombreux obstacles. Les centrales à charbon mises à l'arrêt auront besoin de longs mois de travaux avant de redémarrer. Autre problème qui concerne les 27 centrales autorisées à reprendre leur production d'ici 2024, le manque de main-d'œuvre qui concerne toute l'industrie du pays. Érigé en solution quasi miracle, le gaz naturel liquéfié se heurte lui aussi à des infrastructures défaillantes. L'Allemagne ne dispose aujourd'hui d'aucun terminal en mesure de stocker cette énergie importée du Qatar ou des États-Unis. Dans le même temps, les énergies renouvelables sont freinées par une législation obsolète qui ne permet pas leur développement rapide. Malgré la confiance affichée par Olaf Scholz, l'Allemagne semble encore bel et bien naviguer à vue.
Et pour éviter les coupures d'électricité cet hiver, l'Italie se met aussi à la sobriété. Son gouvernement a présenté son plan d'économie d'énergie. Il prévoit de diversifier les sources énergétiques et de demander aux Italiens de faire des efforts ces prochaines semaines, notamment sur le chauffage. Une manière de s'affranchir encore de la dépendance italienne au gaz russe, Blandine Hugonnet.
L'hiver italien sera-t-il froid ? Ce sera surtout l'hiver des petits sacrifices. La sobriété, c'est l'avenir, répond le ministre de la Transition écologique. Roberto Cingolani, qui pour son opération sobriété, espère sensibiliser les Italiens à un usage consciencieux au quotidien. Éteindre les appareils en veille, prendre des douches plus courtes, baisser le feu sous l'eau des pattes. Mais selon le plan italien, le plus gros effort et le plus réglementé est demandé sur le chauffage. L'allumer 1 heure de moins par jour pendant 2 semaines de moins cet hiver et pour une température maximum de 19 degrés dans les maisons comme dans les bureaux. L'objectif, baisser la consommation énergétique de 15%, soit plus de 8 milliards de mètres cubes économisés d'ici le printemps prochain. Et ainsi réduire la dépendance de l'Italie aux Russes qui menacent de fermer le robinet de gaz. C'est la paix ou les radiateurs, avait déjà prévenu le président du Conseil, Mario Draghi, peu après le début de la guerre en Ukraine. Mais pas question de céder au chantage de Moscou. D'ailleurs, l'Italie avait pris les devants, rappelle le ministre de l'Écologie. En 6 mois, la péninsule a en effet divisé par 2 ses approvisionnements en gaz russe. Et le plan prévoit désormais aussi une relance à plein régime de ses 6 centrales à charbon pour produire l'électricité. Malgré tout, en cas d'alerte pénurie, un rationnement plus ferme est prévu, avec extinction des feux anticipés dans la rue pour les boutiques, restaurants et monuments. Un plan d'économie d'énergie bienvenu en pleine inflation inflation record ici. La crise énergétique est d'ailleurs la première préoccupation des Italiens. Et s'ils sont une majorité à être prêts à faire attention à leur consommation cet hiver, beaucoup comptent aussi sur l'aide de Rome. Depuis l'été, le gouvernement a déjà débloqué plus de 50 milliards d'euros pour contenir les prix des factures italiennes.
La Diada, la fête nationale catalane, c'était dimanche, avec comme toujours l'occasion pour les indépendantistes de compter leurs troupes lors d'une grande manifestation. Mais pour la première fois depuis 2016, le président catalan n'y était pas à cause des divisions au sein de la mouvance indépendantiste. C'est le reportage à Barcelone d'Élise Gazangel.
D'habitude en t-shirt coloré, c'est cette fois vêtu de noir que les indépendantistes catalans ont manifesté ce dimanche, comme s'ils faisaient le deuil d'une union qui vole en éclats. Pour la traditionnelle manifestation de la Diada, le jour de la Catalogne, les pancartes étaient cette fois dirigées contre le gouvernement indépendantiste au pouvoir. Eulalia est venue de Palamos, à 100 km au nord de Barcelone. Elle distribue ses 20 000 affiches noires au slogan clair.
Alors il y a, les gens sont là, mais les partis nous ont trahis. Celle-là est light, mais elle dit la vérité et elle a du succès. Et celle-là, c'est noté, menteur, je ne voterai plus pour vous. Alors même si elle ne cite personne, ceux qui sont visés savent qui ils sont.
El que es doni per al·ludit sabrà qui és.
La cible n'est pas nommée, mais elle est claire. Pere Aragonès, l'actuel président de la région, et son parti, Esquerra Republicana, la gauche indépendantiste catalane, jugée trop modérée pour la militante et la plupart des manifestants du jour, elle explique.
Ils ont voté le budget et d'autres lois au Parlement espagnol sans rien en échange. Depuis 2 ans, ils misent sur une table des négociations qui n'avance pas. Ils se moquent de nous. Alors on n'est pas d'accord avec l'attitude de ce parti qui perd sa dignité. On ne peut être soumise à Madrid.
Estan perdent la dignitat. No es pot ser soumise à Madrid.
Élu en février 2021, le leader catalan a en effet opté pour l'abandon de la confrontation avec Madrid, une voie jusque-là préférée par la droite indépendantiste qui gouvernait. Aragonès assume vouloir attendre d'obtenir une majorité sociale indépendantiste plus claire et de négocier un référendum légal avec Madrid. Il a rétabli les liens avec le gouvernement socialiste au pouvoir. Pour les plus radicaux comme Eulalia, cette diada est l'occasion de lui montrer leur désaccord.
Cette diada, c'est celle de la protestation, de la réclamation. Aujourd'hui, ils sauront ce que pense vraiment le peuple, parce que nous, on exige que nos politiques fassent le travail pour lequel on les a élus, parce qu'ils jettent nos votes à la poubelle. Nos votes sont pour l'indépendance, et si on n'a pas pu la déclarer à un moment, au moins ils doivent lutter pour l'obtenir.
Si on n'a pas pu faire l'indépendance à un moment déterminé, han de lluitar per la independència.
Ce message radical est le même qu'avait lancé quelques jours plus tôt l'ANC, Assemblea Nacional de Catalunya, association organisatrice du rassemblement, et qui avait motivé l'annonce de l'absence du président catalan dans la manifestation pour la première fois depuis 2016. Interrogé sur le sujet, Aragonès s'était justifié.
Il est clair que cette manifestation a pour but de critiquer, elle a une volonté de corriger et demander un changement dans le travail qu'on fait au gouvernement, alors ça n'aurait pas vraiment de sens que je sois présent contre le gouvernement que je préside.
Mais il n'est pas parvenu à calmer la colère des plus radicaux dans les rues de Barcelone ce dimanche, et la différence était palpable. Ces 10 dernières années, les manifestations ont rassemblé plus d'un million de personnes dans une ambiance festive. Cette année, les quelques centaines de milliers de participants semblaient avoir oublié leur ferveur et les slogans originaux laissaient place aux noms d'oiseaux et sifflets. Puis sur scène, la présidente de l'ANC, Dolors Feliu, a lancé un ultimatum.
La majorité du Parlement catalan, 52%, est indépendantiste. Alors il n'y a que deux options. Soit vous faites l'indépendance, soit vous convoquez des élections.
Cinq ans après le référendum de 2017, la lutte pour l'indépendance de la Catalogne est devenue un combat fratricide et il pourrait bien faire tomber le gouvernement de coalition au pouvoir dans la région.
Tous les lundis, c'est l'œil européen de Franceline Beretti qui, en cette rentrée, nous fait un panorama des grandes figures qui ont marqué la construction européenne. Les Français connaissent très peu Jean Monnet et Robert Schuman, deux des pères fondateurs de l'Europe. Et s'ils sont méconnus en France, ce sont des inconnus à l'étranger. Franceline Beretti nous raconte comment chaque pays a ses propres figures de la construction européenne.
Ce concept de grand européen n'existe pas partout avec cette signification. Dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, par exemple, l'Europe était un projet bien avancé quand ils ont pu y entrer, dans les années 2000. Et après un demi-siècle de dictature soviétique, l'opinion publique n'avait pas besoin d'être convaincue de son intérêt. L'Europe, ça allait de soi. La Grande-Bretagne, elle, est entrée dans un grand marché commun en 1973. Elle en est ressortie 50 ans plus tard, parce qu'il devenait trop contraignant. Rien de romantique. Pas de quoi s'émerveiller sur celui ou celle qui aurait conduit le pays à entrer dans ce bazar.
Parce qu'ils sont perfides, les Anglais, je pense que c'est ça la raison.
En fait, les grands Européens se trouvent surtout dans les pays fondateurs. Allemagne, Benelux, Italie, France. En Allemagne, l'Européen, c'est Konrad Adenauer, celui qui a compris que son pays ne se relèverait de l'infamie nazie qu'en s'intégrant dans un espace supranational. Écoutez-le défendre la CECA, le marché commun du charbon et de l'acier.
Ce contrôle réciproque est le meilleur moyen de construire une politique qui repose sur la confiance.
Mais dans la mémoire collective, il y a aussi le grand consolidateur de la réconciliation franco-allemande.
L'image probablement la plus poignante de cette cérémonie, le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise, après que le Deutschland über alles ait retenti sur ces lieux historiques. Je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand a été joué à Verdun.
Helmut Kohl est pour les Allemands aussi un grand Européen. En Italie, la réconciliation franco-allemande, ça ne passionne pas les foules. Non, le grand Européen là-bas, c'est Altiero Spinelli. Il n'est pas considéré comme un père fondateur de l'Union. Ça, c'est Alcide De Gasperi, président du Conseil à l'époque des premiers traités. Mais Spinelli est un des auteurs du Manifeste de Ventotene. Ce texte pense une Europe unie et défend l'idée d'une constitution dès les années 1940. En 1981, au Parlement européen, Spinelli plaide encore pour plus d'intégration.
Nous devrions avant toute chose impliquer davantage et toujours plus profondément l'ensemble du Parlement.
Et puis côté belge, il y a Paul-Henri Spaak.
Moi j'aime autant les Wallons que les Flamands, moi je me sens un bon Belge.
Un bon Belge qui a compris que son petit pays aurait tout à gagner d'une communauté européenne. Même si à l'époque de l'interview, en 1968, il n'est pas en bon terme avec son grand voisin.
Quel est votre sentiment exact à l'égard du général de Gaulle ?
Oh là là.
Oui, Spaak était surtout de gauche. À l'inverse de Johan Willem Bayen, un banquier néerlandais qui a défendu de toutes ses forces l'idée d'un marché commun. À l'époque, aux Pays-Bas, tout le monde y est opposé.
Il y avait pas mal de ministres qui ne croyaient pas du tout aux chances de succès d'une telle initiative. En outre, il était confronté avec une forte opposition des milieux économiques, et notamment les milieux économiques basés sur le port de Rotterdam. Qui craignait fortement que la création d'une union douanière mènerait à une sorte d'entité protectionniste. Comme on disait, ce que Napoléon n'a pas réussi à faire, c'est enfin Mendès France qui le réussira.
C'est le néerlandais Charles Rutten qui parle, grand européen lui aussi. On a oublié à quel point la peur de son voisin était forte dans les années 50 et à quel point certains ont dû se battre pour que l'idéal d'une communauté entre ces pays se concrétise.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Olivier Roux. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. À demain.